15 thrills. Dress to, fit to, if looks can kill. Anyway, time tells. Thieves steal from thief. Now everybody got beef.
Minutes d'infos choisies
chaque vendredi
sur Radio Galère 88.4.
Salut!
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Bonjour!
Salut, c'est les infos choisies de 12h30. Alors aujourd'hui, on a un programme bien chargé. On va vous parler de conséquences des systèmes de frontières européennes, du rassemblement en hommage à Zeynep Redouane et du référendum en Kanaky. Et tout de suite, on commence avec un retour sur le naufrage dans la Manche qui a eu lieu la semaine dernière.
Oui, on l'avait entendu crier ici dans les infos de juin, dans une manifestation le 5 juin sur la frontière franco-italienne. Di confine si muore, des frontières, on en meurt, encore et encore. Le mercredi 24 novembre, mercredi la semaine dernière, 27 personnes ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation, alors qu'elles tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre depuis Calais. Dans un article du 25 novembre sur le Bondi Blog, Félix Moubenga réagit à ce drame et appelle à notre responsabilité collective. C'est un drame qui surgit de l'indifférence collective, justement, à l'égard du traitement des exilés entre la France et le Royaume-Uni. Un drame qui laisse entreapercevoir l'enfer glacial de l'exil, de Calais, de la France, de l'Union européenne. La semaine précédente, il y avait déjà eu l'annonce du décès d'un bébé syrien d'un an, après un mois passé dans les forêts frontalières entre la Pologne et la Biélorussie. Cet enfer glacial de l'exil, il se retrouve là-bas aussi, en forte concentration en ce moment. Alors, on peut se souvenir de la photo d'Aylan Kurdi le 2 décembre 2015, étendue sur cette plage turque de Bodrum. On aurait pu penser qu'on se déciderait à tout mettre en œuvre pour que d'autres enfants n'aient plus à connaître le même sort. Mais non, rien n'a changé et les situations ne semblent qu'empirer. Démantèlement des jungles à Calais et alentour, fermeture du centre de la Croix-Rouge à Vintimille, évacuation l'année dernière de la place de la République occupée par 500 exilés. Rien ne change, la répression est toujours aussi outrageuse sur les exilés, leurs tentes, leur accès à l'eau et sur ceux qui les aident aussi en passant. Les réactions de ceux qui nous gouvernent à ce naufrage, des moyens supplémentaires de l'agence Frontex pour la surveillance des frontières extérieures de l'européenne, ainsi qu'une réunion de ministres. Il a été dit, tout sera mis en œuvre pour retrouver et condamner les responsables. Mais les responsables, dans leur bouche, ce sont les passeurs, mais les responsables, vraiment, c'est qui? C'est les politiques européennes de contrôle des frontières. Alors, les personnes qui en sont victimes sont des personnes qui sont prêtes à braver la mort plutôt que de rester là où aucune perspective ne s'ouvre à elles. Il faut crier haut et fort que ces êtres humains, réduits au nom d'étrangers, de migrants, sont pour beaucoup en exil depuis de nombreuses années, parfois sans nouvelles de leurs proches, parfois en ayant survécu à l'esclavage et à d'autres traitements tout aussi sordides. Dans la Manche, ce sont 37 mortes depuis le début de l'année. Dans ce naufrage, c'était des personnes principalement, enfin, des traces qui ont pu être retrouvées, des personnes afghanes et du Kurdistan irakien. Je propose, avec l'aide d'un article de Mediapart, de revenir sur les parcours de certaines personnes. Shahawali, un jeune d'une vingtaine d'années de la ville de Logar, en Afghanistan, qui avait déjà passé 6 ans en Grande-Bretagne, où il était arrivé mineur et travaillait dans le bâtiment. En 2020, il est rentré au Pakistan, où sa famille est exilée, pour se marier. Shah Shah Wali voulait retourner en Angleterre pour travailler afin de faire vivre sa famille, car en France et en Italie, les Afghans, nous, on ne peut pas, selon un témoignage d'un ami. Sur le bateau, il y avait aussi Kazal, une kurde d'Irak de 46 ans, et ses trois enfants, Adia, 22 ans, Moubine, 16 ans, et Asti, 7 ans. La semaine précédente, Kazal Ahmad et ses enfants se trouvaient dans le camp de Grande-Synthe. La police était passée pour chasser tout le monde. Comme après chaque expulsion, beaucoup s'étaient retrouvés privés de tentes et de sacs de couchage. Kazal et ses enfants avaient tout perdu dans l'évacuation. Elle avait répondu à un journaliste qui lui demandait si la traversée de la Manche sur un petit bateau l'inquiétait. « Bien sûr, j'ai très peur. L'idée que mes enfants et moi allions dans ce bateau m'inquiète à chaque minute. Mais regardez où nous en sommes. Nous ne pouvons pas rester ici. » Dans le naufrage, il y avait aussi Mariam Nouri Hama Amin. Elle avait 24 ans et venait du Kurdistan irakien. Elle voulait rejoindre son fiancé Karzan, installé en Grande-Bretagne. Celui-ci était avec elle au téléphone au moment du naufrage et c'est lui qui a prévenu sa famille. Il y avait aussi probablement Hussein, 24 ans, afghan. Sa cicatrice sur le front, au-dessus du nez, une doudoune noire, des baskets blanches, toutes neuves, qu'il portait le 24 novembre et qu'un ami cherchait désespérément à retrouver parmi les corps retrouvés après le naufrage. Naïm, 40 ans, qui avait demandé l'asile en Grande-Bretagne. Il a joint des amis en Angleterre à 2h du matin pour leur demander d'appeler le commissariat. Il leur a dit qu'ils allaient mourir, qu'ils avaient appelé la police anglaise, mais que ça n'avait rien donné, selon Gafour, un ami. Et puis il y avait aussi Ahmad, né en 1994, Hamdoullah, né en 1991. Voilà, à chaque fois qu'on entend tous ces chiffres mortifères, ce sont effectivement des personnes qui simplement cherchent à trouver à se faire une vie là où elles veulent, comme nous ici on peut décider d'aller un peu partout dans le monde pour changer de vie, pour réaliser des projets.
Et on avait envie aussi de vous parler de lutte de personnes en migration qui prennent de plein fouet les conséquences des politiques de frontières européennes. Alors ça se passe en Libye. Et en fait, depuis le 2 octobre dernier, il y a plus de 3000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui occupent et qui campent sur une place à Tripoli, devant le siège du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et ces gens dénoncent les violences contre les personnes qui migrent, des violences commises par les militaires et les autorités libyennes et financées allègrement par l'Europe. Donc elles ont créé une assemblée permanente auto-organisée, qui s'appelle Refugees in Libya. Et hier, le jeudi 2 décembre, elles ont enregistré un communiqué qu'on écoute maintenant avec une interprétation en français en live. Nous sommes des réfugiés et nous vivons en Libye. On vient du Sud-Soudan, du Sierra Leone, du Tchad, de l'Ouganda, du Congo, du Rwanda, du Burundi, de Somalie, d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan, et d'autres pays subsahariens. On fuit les guerres civiles, les persécutions, les changements climatiques et la pauvreté dans nos pays d'origine. On a tous été poussés à partir dans des circonstances qu'aucun être humain ne peut endurer. On voulait atteindre l'Europe à la recherche d'une seconde chance et on est arrivé en Libye. Ici, on est devenu la main-d'œuvre cachée de l'économie libyenne. On pose des briques et on construit des maisons libyennes. On répare et on lave des voitures libyennes. On cultive et on plante des fruits et des légumes pour les agriculteurs libyens, pour les repas libyens. On monte des satellites sur des toits hauts pour les écrans libyens, etc. Apparemment, ça ne suffit pas aux autorités libyennes. Notre main-d'œuvre ne suffit pas. Ils veulent le contrôle total de nos corps et de notre dignité. Ce qu'on a trouvé à notre arrivée ici, c'était un cauchemar, fait de torture, de viol, d'extorsion, de détention. On a subi toutes les violations possibles et imaginables des droits de l'homme. Et pas seulement une fois, On a été intercepté de force en mer par les soi-disant gardes-côtes libyens, financés par les autorités italiennes et européennes, puis ramenés dans des prisons et des camps de concentration inhumains. Certains, certaines d'entre nous ont dû subir ce cycle d'humiliation 2, 3, 5, jusqu'à 10 fois. On a essayé de faire entendre nos voix et de diffuser nos histoires. Nous les avons enseignées aux institutions, aux politiciens, aux journalistes. Mais à part quelques rares personnes intéressées, nos histoires sont restées inaudibles. On a été délibérément réduits au silence, mais plus maintenant. Plus depuis le 1er octobre 2021, jour où la police et les forces militaires libyennes sont venues dans nos maisons, dans le quartier de Gargarèche, et ont mené contre nous des répressions et des raids massifs impitoyables, graves. Des milliers de personnes ont été arrêtées arbitrairement et détenues dans des camps de concentration inhumains. Le lendemain, on est venu à titre individuel et on s'est rassemblés au siège du Haut Commissariat aux réfugiés. Là, on a compris qu'on n'avait pas d'autre choix que de commencer à s'organiser. Nous avons élevé nos voix et les voix des réfugiés sans voix qui ont été constamment réduits au silence. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire alors que personne ne défend nos intérêts et nos droits. Nous sommes ici, maintenant, pour revendiquer nos droits et pour chercher une protection vers des pays sûrs. Par conséquent, on demande maintenant, avec nos propres voix, premièrement, des évacuations vers des pays de sécurité où nos droits seront protégés, dans le respect de notre dignité humaine, le droit de vivre et le droit à la vie. Deuxièmement, la justice et l'égalité entre les réfugiés et les demandeurs d'asile qui sont enregistrés auprès du HCR en Libye. Parce que ce qu'on voit ici, c'est du racisme entre les personnes de différentes nationalités. Troisièmement, la suppression du financement des gardes-côtes libyens qui interceptent constamment et par la force les réfugiés fuyant l'enfer libyen et qui les ramènent en Libye où ils subissent toutes les atrocités. 4. La fermeture de tous les centres de détention à travers la Libye, centre entièrement financé par les autorités italiennes et de l'Union européenne. 5. Nous exigeons que les autorités traduisent en justice ceux qui ont tiré et tué nos frères et sœurs à l'intérieur et à l'extérieur des centres de détention. 6. Les autorités libyennes doivent cesser de détenir arbitrairement les personnes relevant de la compétence du bureau du HCR. 7. Appeler la Libye à signer et à ratifier la constitution de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Si ce qu'on vient de vous dire vous parle, merci de diffuser notre manifeste. Merci. Voilà, alors si ça vous intéresse, il y a un blog sur lequel il y a les dernières infos de lutte, les revendications, les manifestes, les appels à soutien. C'est donc sur Refugees in Libya. Et puis aussi dans pas mal de pays d'Europe, eh ben, il y a eu des rassemblements de soutien à cette manifestation, à cette occupation. Des rassemblements qui ont été organisés devant des ambassades de la Libye, notamment à l'initiative de communautés érythréennes et soudanaises.
On voulait aussi parler de la traite. Alors quand on entend le mot traite, on pense à l'esclavage, à des temps anciens qui n'appartiennent plus à nos vies actuelles. Mais pourtant, dans toute l'Europe, la traite d'êtres humains occupe la troisième place sur la liste des plus grands trafics. En premier, c'est le trafic d'armes. En deuxième, le trafic de drogue. En troisième, le trafic d'êtres humains. C'est un phénomène mondial. Et aujourd'hui, en Europe, il y a des trafiquants condamnés pour acquisition d'esclaves, réduction de personnel esclavage, c'est-à-dire en les privant de leur liberté, et commerce de personnes. Ce sont des organisations internationales qui gèrent ce trafic, aussi bien dans les pays européens qu'hors d'Europe. Et c'est un phénomène difficile à cerner parce qu'il est géré sur plusieurs plans. Ces organisations criminelles sont parfois toutes petites ou parfois organisées à un très haut niveau. Les personnes peuvent être achetées dans le pays où elles sont nées. Elles peuvent être ainsi prises dans le trafic durant tout le voyage pour rejoindre l'Europe. Puis elles sont exploitées une fois arrivées en Europe. L'exploitation qu'elles subissent si elles sont des femmes est de nature sexuelle. Elles sont alors obligées de vendre des services sexuels sans que ce soit leur choix. Et même si certaines d'entre elles savent qu'en entrant dans ces réseaux, elles vont subir cette exploitation sexuelle, elles n'ont pas d'autre choix pour quitter leur pays, souvent. Ce qui est plus couramment connu en Italie, en France, c'est la traite de personnes africaines, mais il y a aussi la traite de femmes venues de pays d'Europe de l'Est, de Chine. les personnes que l'on voit dans la prostitution de rue ont été prostituées par d'autres, ont été contraintes à la prostitution. Elles le font parce qu'elles ont contracté aussi une dette lors de leur voyage, parce que les organisations qui les font venir leur font payer leur voyage. Et ces camps en Libye aussi ne font qu'empirer la situation, parce que plus les personnes enfermées dans les camps y passent de temps, plus elles subissent de violences. Et quand elles arrivent en Europe, en plus de la dette pour rembourser leur voyage, s'ajoute parfois aussi une dette pour faire libérer une proche détenue en Libye. Elles peuvent aussi rencontrer des trafiquants au cours de leur voyage et tomber dans ces réseaux, parce qu'à la recherche de moyens de se déplacer, de traverser des frontières, de franchir la Méditerranée. Sinon, ça peut se passer aussi directement sur les frontières européennes, comme à Vintimille, où on peut voir des femmes arriver. Alors souvent arrive aussi une personne qu'on va appeler la madame, qui a subi un parcours de traite auparavant, mais qui s'est émancipée d'une certaine manière en participant à l'exploitation d'autres femmes. La madame va alors choisir et payer des femmes qui se trouvent sur la frontière, et ces femmes deviennent affiliées à des organisations criminelles qui les répartissent ensuite sur tout le territoire européen selon des choix dictés par la demande des hommes. En Allemagne, par exemple, on va demander des femmes africaines plus robustes, grandes. En Italie, ce serait plutôt des femmes plus petites qui peuvent sembler très jeunes. Et même une copine qui travaillait sur une unité de rue en soutien aux prostituées a témoigné qu'elle en avait eu parfois vêtue de vêtements de petite fille avec une peluche dans les mains pour ressembler le plus possible à une enfant. Parfois aussi, la demande en Italie était grande pour des femmes enceintes. Et c'était le type de femmes qui étaient recherchées par ces réseaux de prostitution. Parfois aussi, c'était même des femmes séropositives au VIH, pour que des hommes puissent démontrer leur puissance à avoir des rapports sexuels avec des femmes séropositives non protégées. Voilà, donc en fait, tout cela est lié au commerce, à l'achat, à la vente, l'offre et la demande. À Vintimille, la police participe directement à ce trafic en orientant les femmes qui arrivent dans un coin particulier de la gare où sont basés les trafiquants. On aura l'occasion de revenir un peu plus en détail dans d'autres infos, parce que malheureusement, ce sujet est d'actualité depuis longtemps, et sauf mobilisation féministe générale européenne, le restera encore un moment.
Où je veux, quand je veux. Paysage hostile, faut que je file. S'il est pas trop tard, quitter la ville sur le périph', aller plus vite qu'un motard. La gare la plus proche indique la moi et je prendrai le train en marche. Un aéroport et dans la soute à bagages, je me cache. Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Dans un 4x4, en 2x2, avec ou sans carte routière. En sous-marin, je m'en irai, la voir voler, je le nierai. Et s'il m'incarcère, dans un hélico, je m'évaderai. Je partirai par tous les moyens, transport en commun, taxi ou vélo. En turfois, les veaux s'il le faut. Rien ne m'arrêtera, en Lada ou Carrera, en TGV ou bien à pied, j'irai toujours où je pourrais aller. Sur le balai d'une sorcière, faire des roues arrière dans la rue. Sur un tapis volant ou un cheval qui tire une charrue. Dans un chariot de supermarché, une fusée qui va vite. Je mettrai le son à fond et je remonterai les vis. Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Par tous les moyens nécessaires, ça m'est cher et je le ferai. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Jurer, je le pense, partir courir ou bien rouler. Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Y aller franchement, droit devant, ne plus reculer. Où je veux, quand je veux, quand je veux m'en aller, rien ne peut nous freiner. Paysage hostile, faut que je file, j'esquive la turbulence. Faut que je fasse de la simulation pour m'évader en ambulance. Avec ou sans moteur, sur le vélo du facteur. Dans un camion poubelle, dans un cab ou dans un tracteur. Je briserai les limites, dans l'air, sur terre et sur l'eau. Croisière sur le Titanic ou sur les bosses d'un chameau. Dans la ville ou dans le désert, dans la poussette du petit frère. La Citroën du grand-père ou dans le container à Robert. Je veux quand je veux, en luge ou en roller. Sauter les barrières et mettre des feintes au contrôleur. Pieds nus ou en basket, en babouche ou en claquette. Dans un vaisseau quelconque ou le bobsleigh des Rasta Rockets. Dans la poche d'un kangourou, la plus classe des limousines. Dans le caddie de la voisine, la curieuse qui parle beaucoup.
à fond la caisse, on se rétit comme un Moclès sur deux billes, avec vitesse sans précipitation et sans régie.
Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières.
Par tous les moyens nécessaires, ça m'est cher et je le ferai.
Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières.
Juré, je le pense, partir courir ou bien rouler.
Où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières.
Y aller franchement, droit devant, ne plus reculer.
Où je veux, quand je peux m'en aller,
peux m'en aller.
Rien ne peut nous freiner. Dans une navette spatiale, un 103 spécial est trafiqué. Un quart de police, K2000 ou le dos à Mickey. Qui veut aller loin, doit ménager sa monture. Moi je m'en vais d'ici, même s'il y a que 3 roues à la voiture.
Tu sais qu'on part de zéro, et que la vie réserve le pire. Qu'un jour il faut partir, même sur le cheval à Zorro. Sans passeport, sans papier, sans visa, voyageons dans le camion des pompiers ou le carrosse de Cendrillon.
Avec mes skis, esquiver les pièges, me sauver en scooter des neiges. Arriver à bon port, caché dans la cale d'un chalutier. En PM à 240 sur l'autoroute du soleil, je réveillerai dans mon cœur le voyageur qui au fond sommeille.
Avec les lianes de Tarzan, je traverserai la savane. J'oublierai le macadam, pas la police ni ses agents. Un de ces quatre, je m'en irai, pas sur un fauteuil roulant. Franchement, chez nous, tu connais, on va toujours de l'avant.
Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières.
Par tous les moyens nécessaires, ça m'est cher.
On va maintenant écouter la lecture d'une lettre écrite par 3 des enfants de Zineb Redouane à l'occasion du rassemblement de commémoration qui a eu lieu hier soir, jeudi 2 décembre, rue des Feuillants, et rebaptisé à l'occasion rue Zineb Redouane.
Zineb Redouane était le contraire de Macron et de Castaner, le contraire de la guerre. Elle était la vie, et s'ils sont dans un autre camp, alors c'est qu'ils sont dans le camp de la mort. Depuis que notre mère est partie, la France de Macron s'est enfoncée chaque jour un peu plus dans la violence et le déni des crimes commis par ses forces armées. La mort de Zineb Redouane, elle-même, n'a fait l'objet que de déni et de mensonges, d'impunité et d'injustice. Zineb Redouane, dans ces quelques minutes qui ont scellé sa vie et les nôtres, a regardé son assassin dans les yeux. Leurs regards se sont croisés, elle l'a vu la viser. Son témoignage devrait constituer l'ultime des preuves, mais même l'évidence et l'incontestable sont devenus déni dans cette période de confusion et de révisionnisme. Ceux qui ont aujourd'hui le monopole de la vérité n'incarnent que le mépris, le cynisme et la honte. Leurs mensonges nous blessent autant que leurs grenades. Mais au-delà des douleurs et des traumatismes, nous gardons la foi dans la vérité et nous continuons le combat avec détermination et dans la dignité. Les assassins et les menteurs seront révélés par l'histoire. C'est pourquoi nous exigeons des policiers et des politiciens qu'ils cessent tout à fait de s'en mêler, de se placer au-dessus de la justice et qu'ils s'écartent enfin de nos chemins pour que la paix l'emporte sur l'injustice et la guerre qu'ils alimentent chaque jour comme si leur vie en dépendait. Milfet, Riyad et Isma vous remercient du fond du cœur d'avoir mis leur mère au centre de votre combat pour la vie. Pour Zineb Redouane, qu'elle repose en paix.
Ce week-end, il y a un appel national, un week-end d'échange et d'action à Marseille. Donc ça a commencé hier avec le rassemblement. Ce soir, à 18h, des ateliers autour de vérité contre-enquête avec des collectifs de contre-enquête indépendantes et Farid El Yamni, le frère de Wissam El Yamni, à la Plaine avec concert à 21h. Demain, entre 11h et 15h, repas collectif, info-kiosque, échange et atelier, discussion autour de violences policières. Et à 16h, manifestation en mémoire de Zineb Redouane sur le Vieux-Port.
On va parler de la Kanaky avec la lecture de passage d'une lettre ouverte adressée par 10 organisations indépendantistes devant l'obstination du gouvernement français à maintenir le référendum au 12 décembre 2021 malgré la grave crise sanitaire qui la touche actuellement. On entend très peu parler de ce qui se joue là-bas, et cette lettre ouverte montre bien l'enjeu de ce référendum, et le silence qui l'entoure en France laisse perplexe. Lettre ouverte du peuple kanak au peuple de France. Nouméa, le 23 novembre 2021. Chères Françaises, chers Français, vendredi 12 novembre, 2021, le haut commissaire de la République a annoncé la décision du gouvernement français de maintenir la date du 12 décembre pour la troisième et ultime consultation référendaire de l'accord de Nouméa sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cette décision a été prise par le gouvernement français en toute conscience des implications et des conséquences délétères que ce choix ne manquera pas d'avoir. Cette décision a été prise par le gouvernement français alors même que les représentants politiques et coutumiers du peuple kanak avaient explicitement demandé son report pour cause de deuil. Dire que nous sommes surpris serait mentir. Nous nous y attendions, mais comme toujours, nous espérions. Nous espérions que le gouvernement français, malgré 168 ans de colonisation, saurait pour une fois faire preuve d'humanité, de compassion, d'intelligence, de respect, de bon sens. Plus loin. Nous espérions et nous avions tort. Des questions viennent alors à l'esprit, auxquelles il va nous falloir absolument répondre dans les prochaines semaines, mais sans nous tromper cette fois, sans nous faire d'illusions sur l'humanité de l'État français et de son gouvernement. Plus loin. Jusqu'à quand le gouvernement français entend-il abuser de la patience du peuple kanak, peuple premier de ce pays, peuple victime de la colonisation française depuis plus d'un siècle et demi? Jusqu'à quand la France pense-t-elle pouvoir bâtir un avenir institutionnel durable pour la Nouvelle-Calédonie en méprisant la parole des représentants politiques et coutumiers du peuple kanak, en feignant ostensiblement d'ignorer la place qui occupe les cérémonies de deuil et le respect qu'on y doit aux morts, en piétinant les sentiments, la sensibilité, la dignité humaine de tout un peuple? Plus loin. Le gouvernement français pense-t-il sérieusement que le scrutin qu'il entend maintenir le 12 décembre mettra fin à la revendication du peuple kanak, lui ôtera toute légitimité et lui permettra de poursuivre un siècle encore, un siècle de plus, un siècle de trop, son travail d'assujettissement et de domination? Jusqu'à quand le gouvernement français continuera-t-il à se bercer et à bercer ses ressortissants d'illusions? Plus loin. À laisser penser qu'une consultation référendaire sans la participation du peuple colonisé aura valeur de solution et réglera, une fois pour toutes, la question de l'indépendance du pays. Qui peut seulement croire possible de construire un avenir, quel qu'il soit, dans ce pays, en oubliant l'esprit qui a présidé depuis plus de 30 années, maintenant, au dialogue des communautés qui y vivent? Qui peut préférer le chant des sirènes gouvernementales françaises plutôt que de continuer à bâtir l'avenir du pays avec les Kanaks? La prochaine consultation référendaire n'a aucune chance de clore la séquence politique ouverte par l'accord de Nouméa. Cette séquence est bien plus ancienne que la signature de l'accord de Nouméa en 1998, plus ancienne même que la double signature à Paris des accords de Matignon-Oudinot en 1988. Cette séquence s'est ouverte en juillet 1983 avec la table ronde de Nainville-les-Roches. C'est en effet au cours de cette réunion qu'ont été posés les deux grands principes fondateurs du contrat moral et politique sur lesquels nous tous qui résidons en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, vivons encore aujourd'hui. Ces deux grands principes doivent être constamment rappelés. Le premier est la reconnaissance par l'État français d'un droit inné et actif à l'indépendance pour le peuple kanak, le peuple colonisé de ce pays. C'était la première fois que l'État français nous reconnaissait ce droit, alors même qu'il nous était reconnu officiellement depuis la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux des Nations Unies en 1960. Le second grand principe était l'acceptation par le peuple kanak d'associer au futur processus de décolonisation et d'émancipation les membres des différentes communautés venues s'implanter dans le pays avec la colonisation. Plus loin, ces deux grands principes issus de Nainville-les-Roches sont liés. Plus loin, nous ne sommes ni naïfs, ni amnésiques. Et depuis plusieurs années déjà, nous avons compris que les vieux démons coloniaux ne sont pas morts et continuent de hanter la conscience des dirigeants français actuels comme ils le faisaient hier chez leurs prédécesseurs, plus loin. Alors que la France a pour obligation au plan international de discuter avec les Kanaks et les autres citoyens de ce pays de toutes les options imaginables permettant de faire progresser la décolonisation, alors qu'une majorité de la population calédonienne, y compris Kanak, souhaite pouvoir conserver des relations privilégiées avec la France, alors qu'approchait enfin le moment de concrétiser la promesse d'émancipation explicitement contenue dans l'accord de Nouméa, voilà que le gouvernement établissait un document uniquement à charge sur les conséquences du vote du oui ou du non. Ce document laissait le seul choix entre une indépendance solitaire ou un statut renouvelé dans la France sans explorer les interdépendances. Plus loin, le président Macron maudissait à Tahiti ceux qui ont l'impardonnable tort d'être petits, comme si les grands ne devaient rien aux petits, surtout après les avoir si longtemps colonisés. Plus loin, le président Macron, qui affirmait en Algérie que la colonisation est un crime contre l'humanité, déclarait à Nouméa que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Avec nous ou contre nous, jamais égaux, jamais partenaires. Peu importe la parole donnée et la décolonisation promise en 83, en 1988 et 1998, peu importe les véritables conséquences humaines du oui et du non. Encouragés par l'État français, ils sont encore nombreux ceux qui s'apprêtent à s'autoriser de la légitimité que leur reconnaissent les Kanaks pour nier l'exercice du droit Kanak à l'indépendance. Plus loin. À cela, nous disons clairement cette fois, faites attention à ce qu'en niant une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, le droit du peuple Kanak à l'indépendance, vous ne preniez le risque que ce peuple se lasse de discuter et de négocier avec vous. Au président Macron et à son gouvernement, nous disons que nous ne souhaitons pas rompre les relations avec la France, nous souhaitons seulement les changer. Mais s'il nous faut absolument choisir entre la liberté et ses relations, nous choisirons la liberté. Peuple de France, nous souhaitons par la présente lettre ouverte vous interpeller sur la situation en Kanaky-Nouvelle-Calédonie afin que le plus grand nombre d'entre vous puisse être informé de la situation dans laquelle le peuple Kanak est enfermé. Le gouvernement Macron manifeste une volonté déterminée de ne plus assumer la décolonisation de notre pays en maintenant une consultation référendaire partiale qui sera politiquement et historiquement contestée par le peuple Kanak. La France n'a réussi aucune décolonisation. Elle pourrait, sans y prendre garde, clore une séquence originale ouverte en juillet 1983 par laquelle les Kanaks et les autres se sont engagés ensemble dans la construction du peuple calédonien, unis par sa citoyenneté dans un destin commun.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Ghetto boy playing in the ghetto street.